et bienvenue dans ce nouvel épisode de Buffet Froid, le podcast qui dissèque le crime en fines tranches. En premier lieu, et comme cela devient la coutume, je vais prendre quelques secondes pour remercier tous les auditeurs qui me font la joie de rejoindre cette émission en s'abonnant ou en commentant. Votre soutien est précieux car rien ne touche ni n'inspire plus les gens que des mots de reconnaissance. Vous et moi oublions peut-être rapidement les mots d'encouragement que nous prodiguons aujourd'hui, mais il est très probable que les gens à qui ces mots ont été adressés les chérissent et se les répètent toute leur vie durant, comme l'écrivait Dale Carnegie. Alors, si vous en avez la possibilité, merci de me laisser quelques étoiles, voire même un petit mot sur Apple Podcast, parce que ça fait non seulement plaisir, mais ça aide aussi le référencement. Vous pouvez aussi me suivre directement sur Twitter au compte @buffetfroidpod. J'ai également un remerciement spécial à adresser aux utilisateurs de l'application Podcast Addicts, car je suis depuis plusieurs semaines en haut de leur page d'accueil dans la section tendance, et ce coup de pouce inattendu a vraiment fait décoller le nombre des abonnés. Merci donc à vous qui avez pris le temps de découvrir cette émission et qui avez décidé de faire un bout de chemin en ma compagnie, d'autant plus que justement, j'ai mis longtemps à réaliser ce nouvel épisode. Sans plus vous faire attendre donc, entrons dans le vif du sujet. En ce qui concerne l'histoire d'aujourd'hui, intitulée « La tragédie de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants », je dois confesser quelques incertitudes. C'est un épisode expérimental et qui restera peut-être unique dans l'histoire de ce podcast. En effet, je vais traiter, contre mon habitude et la ligne que je m'étais fixée, d'une affaire en cours, dans laquelle aucun jugement n'a été rendu pour l'instant, à ma connaissance. Par conséquent, je dois préciser bien sûr que tous les individus dont je vais parler sont présumés innocents jusqu'à ce qu'un jugement définitif dise éventuellement le contraire. Les faits que je rapporte sont issus des enquêtes de plusieurs journalistes, publiées dans divers articles de presse, que j'ai confronté au mieux de mes capacités dans l'intention de donner sur l'affaire le point de vue le plus nuancé possible, et ce, sans porter atteinte à la réputation de quiconque ou de quelque institution que ce soit. Là encore, il va de soi que les faits doivent être établis avec certitude par la justice, avant d'être tenus pour véridiques, et qu'en attendant, il s'agit au mieux de présomptions ou d'hypothèses. Donc aujourd'hui, pas de crime de sang, pas de violence, mais une affaire qui défraye la chronique depuis la fin 2015, début 2016, et qui a conduit à la disparition effective de l'OCRTIS en juillet de cette année 2019, remplacée depuis par l'OFAST. C'est une affaire qui me nargue depuis que j'ai en tête ce projet de podcast, et ce sans que je sache pourquoi j'éprouvais ce besoin impérieux d'en parler, alors que consciemment, par ailleurs, j'avais l'intention de me limiter à des affaires anciennes pour ne surtout pas me prendre les pieds dans le tapis roulant de l'actualité. Et donc, à force de tourner autour et de me documenter sur l'affaire, je me suis retrouvé pris dans un cycle infernal, une sorte d'ouroboros, ce serpent mythologique et ésotérique perpétuellement en train de dévorer sa propre queue. Ma démarche de recherche faisait ainsi écho au cycle perpétuel et sans issue de la lutte contre le trafic de stupéfiants lui-même. Quelques chiffres pour se rendre compte de l'ineptie de la politique actuelle. Les stupéfiants, c'est un marché de plus ou moins 3 milliards d'euros en France, dont 1,5 milliard pour le haschich, la drogue dont nous allons le plus parler ensuite. Ceci représente, selon les estimations, un peu moins de 500 tonnes écoulées par an en volume, soit 40 à 50 tonnes importées mensuellement pour le seul cannabis. Or, le total des saisies annuelles se situe autour de 100 tonnes par an. Les quantités sont de surcroît en augmentation constante depuis des décennies, et pour les autres types de drogues, on retrouve à peu près les mêmes proportions, donc clairement, la répression ne fonctionne pas. Lorsque l'importation devient plus compliquée, la production augmente localement, lorsque de trop gros volumes sont interceptés, le transport est réparti par les trafiquants sur de multiples mules. Bref, l'approche classique apparaît prisonnière de ce serpent fermé sur lui-même, incapable de progrès à force de répétition. Pire, la tendance est à la hausse continue de la consommation, environ 20% de plus en 10 ans. La drogue est un fléau social entraînant crimes et délits dans son sillage qui coûte environ 8 milliards annuels à la collectivité, ce qui en fait le pendant moderne des épidémies de peste antique, supposées envoyées par les dieux pour châtier les cités coupables de quelques blasphèmes. Et c'est précisément ce qu'a dû se dire le protagoniste principal de notre affaire, le commissaire divisionnaire François Thierry, l'homme par qui le scandale est arrivé et dont l'irrésistible ascension fonde le premier acte de notre tragédie. François Thierry, qui prend la tête de l'ORCTIS en 2010, est un pur produit de la police judiciaire et surtout un fin connaisseur de la lutte contre les stupes, domaine dans lequel il a accompli pratiquement l'intégralité de sa carrière. Sorti de l'école de police en 1994, cet ancien des prépa-lettres, helléniste à 16 heures, a fait la preuve de ses qualités d'analyse à Nantes avant d'être promu à Pointe-à-Pitre, un poste très exposé, dans lequel ce rugbyman amateur n'a pas hésité à payer physiquement de sa personne en participant aux opérations dans la jungle ou en mer d'arrestation des trafiquants, entre autres contre les bateaux qui pullulent dans ses eaux à portée des côtes sud-américaines, allant jusqu'à faire le coup de poing avec ses hommes. Repéré par les pontes de la police nationale à Paris, il rejoint ensuite au début des années 2000 la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre, où il va passer d'un commandement opérationnel à l'ORCTIS déjà, à la direction du très secret Service interministériel d'assistance technique, qui, sous son nom bénin, gère la logistique des policiers infiltrés appelés zombies et les enquêtes sous couverture, et ce à partir de 2006. Sur un plan personnel, il est décrit comme charmeur, éloquent, sportif et séducteur invétéré. La rumeur du palais lui prête nombre d'aventures plus ou moins longues, et la liste de ses conquêtes magistrates, avocates ou greffières, à peine dépareillée par une actrice ci et là, serait interminable, ce qui a son importance pour la suite. Mais pour l'heure, revenons au SIAT. À ce poste privilégié, il a la main sur le Saint des Saints, le bureau central des sources. Et en tant que tel, il fait partie du minuscule cénacle des personnes en position de connaître les identités réelles de tous les informateurs en France, police, gendarmerie et douane confondues. C'est la tour de contrôle de la lutte anti-drogue, car sans ce travail de renseignement occulte, il n'y a pas de police possible. Or, justement, au moment précisément où il arrive pour diriger ce service, les relations entre policiers et informateurs connaissent un véritable Big Bang avec l'entrée en vigueur de la loi Perben 2 votée en 2004. François Thierry se trouve chargé, dans les faits, de mettre en application ces nouvelles règles. Jusque-là, au moins depuis Vidocq pour ce qui intéresse la police moderne, mais sans doute depuis bien plus longtemps, la police cultivait des relations assez floues avec la pègre sur une base de réciprocité et de compromis plus ou moins douteux. Faute de règles inscrites dans la loi, chaque policier était invité à constituer son propre réseau d'informateurs, et en l'absence de tout budget, il était fréquent pour les officiers de fixer eux-mêmes ce qu'on appelle la gamelle et de rémunérer les renseignements en se servant sur la bête, c'est-à-dire en détournant une partie des saisies, soit en liquide, soit en nature, sous forme de petites quantités de drogue. Jeu dangereux, car le policier trop complaisant ou trop aveugle, qui allait au-delà des 10% de coulage ordinairement tolérés, risquait des poursuites pour complicité de trafic. Mais c'était aussi un jeu indispensable qui permettait à l'indicateur de préserver sa couverture en lui donnant les moyens de garder de la crédibilité dans le milieu. En 2004, tout change. L'opinion publique tolère de moins en moins ces arrangements sous le manteau et dans un climat qui réclame de la transparence à tous les niveaux, cette situation devient intenable. Le législateur se saisit donc du problème et fixe un cadre légal impératif. Tous les indics désormais doivent être fichés individuellement, leur rémunération est fixée, prise sur un budget officiel de l'État, elle ne peut plus en aucun cas être versée en nature. Ce fichier d'immatriculation ultra sensible est donc confié au bureau central des sources, dépendant du SIAT. Chaque indic reçoit un identifiant codé qui évite que son nom apparaisse dans les procédures, son identité réelle est donc connue du seul BCS, qui est de facto un des services les plus secrets de la police judiciaire. En plus de cet identifiant unique, la fiche fait apparaître pour chaque indic sa spécialité ainsi que son officier traitant auquel il est attaché et le superviseur de celui-ci. C'est donc une conséquence, et la simplicité, de la loi Perben 2, que la hiérarchie devant désormais contrôler l'utilisation des budgets de rémunération des indics, il est inconcevable que les patrons de service continuent de traiter eux-mêmes des informateurs, car on ne saurait confondre les rôles de superviseur et d'officier traitant. Le superviseur doit être informé des échanges entre le policier et son tonton, comme on dit, par des notes de contact écrites. Le but de ce luxe de précaution, en théorie, c'est d'éviter que l'indicateur n'utilise ses relations pour faire prospérer son propre trafic en se servant de la police comme d'une force de frappe pour éliminer la concurrence, et qu'il ne tire ainsi un profit indu de ses renseignements. C'est un but louable sur le papier, mais un équilibre très délicat à atteindre. En bas de l'échelle, quand un petit dealer dénonce son grossiste contre une poignée de billets, tout va bien, mais plus un indic est haut placé, meilleurs sont ses renseignements et par conséquent, également, plus la contrepartie doit être grande. S'il donne un réseau concurrent, la police qui procède au démantèlement de ce réseau sert-elle encore l'intérêt général ou aide-t-elle son indic à maintenir sa suprématie dans son secteur de distribution? L'argent qu'elle lui verse est-il toujours une juste rémunération des risques qu'il court dans un milieu sans pitié pour les balances ou au contraire l'État finance-t-il le développement du trafic de l'indic? Plus épineuse encore est la zone d'ombre où l'on ferme les yeux faute de pouvoir rémunérer suffisamment le service rendu sur une partie du trafic de l'indic. La frontière est bien mince et très vite franchie entre la police qui utilise les renseignements de son indic et le trafiquant qui exploite la puissance publique à son profit. Tout cela, François Thiry le sait parfaitement, puisqu'il est responsable au premier chef de la mise en œuvre de ces règles. Pourtant, il est incapable de résister à la tentation en 2009, quand il apprend par une indiscrétion qu'un des plus gros trafiquants européens, Sofiane Ambly, originaire de Mulhouse, est prêt à manger le morceau. Cet homme, contre toutes les règles qu'il est censé faire respecter de par sa position, il va essayer de le retourner et de le traiter personnellement. Le but, c'est que Sofiane Ambly devienne son joker qui va propulser sa carrière au firmament de la PJ. Sofiane Ambly, c'est un de ces nouveaux caïds issus des banlieues qui s'est tissé en un temps record en pôle position des logisticiens du trafic de haschich. À la fin des années 90, à 20 ans et des poussières, il contrôlait déjà tout l'est de la France, Strasbourg et Mulhouse en tête, organisant la noria des convois partis du Rif marocain, transitant par l'Espagne avant de remonter en France par GoFast. Il échappe de peu à quelques coups de filet de la gendarmerie, la baraka, et décide d'aller se mettre au vert en Espagne en 1997 avant de se faire pincer pour de bon. Il y mène la belle vie, mais manque de chance, il est arrêté en 2002 et extradé vers la France, condamné à 5 ans de réclusion. La prison n'arrête pas ses affaires, qu'il continue à traiter depuis l'intérieur des enceintes pénitentiaires en se faisant passer des cartes de téléphone à l'insu des gardiens, mais pas à l'insu de la police qu'il surveille et se délecte de ses confidences téléphoniques. Finalement, lassé de sa cellule, il s'évade sur un coup de poker en 2003 et retourne se réfugier sur la Costa del Sol à Marbella, qui fait figure de club maître des trafiquants de tout poil. Là, on y monte les plus grosses opérations, calfeutrées dans des villas de luxe louées à des agents immobiliers véreux, ou même au large sur de puissants yachts qui servent également à planquer la marchandise en transit entre le Maghreb et l'Europe. Il est condamné par défaut en France, mais échappe à toutes les tentatives d'arrestation des policiers espagnols en faisant usage de la violence des armes si besoin. Il n'hésite pas non plus à s'exiler ponctuellement sur l'autre rive de la Méditerranée, au Maroc, quand la menace devient trop pressante. Ambly dit « la chimère » pèse alors, personnellement, au minimum, entre 30 et 40 millions d'euros, répartis sur des comptes en banque discrets aux quatre coins de l'Europe. Et l'époque n'est plus au blanchiment artisanal de papa, les sommes sont bien trop élevées pour être investies dans de petits fonds de commerce au compte-gouttes. Les caïds du calibre d'Ambly sont des investisseurs qui déversent continuellement, via de très sélects banquiers d'affaires londoniens, leur manne dans des projets immobiliers, en particulier à Dubaï, alors en plein développement et peu regardante sur l'origine des fonds, ou dans les industries de Pologne, d'Ukraine, etc. Bref, ils voient grand et se considèrent comme des entrepreneurs plutôt que des trafiquants. Ce qui ne les empêche en aucun cas d'être par ailleurs impitoyables. De coup en coup, de livraison en livraison, Ambly est devenu un des plus gros, si ce n'est le plus gros trafiquant de cannabis d'Europe. Son réseau fournit maintenant tous les grossistes de France, mais il se fait finalement pincer une nouvelle fois en 2009, et cette fois, il est condamné par la justice espagnole à 18 ans de prison. À quoi servent 40 millions si on ne peut pas les dépenser en costards sur mesure, bijoux clinquants, voitures de luxe et villas de rêve? Ambly a le cafard, il est isolé, loin de sa ville, Mulhouse, où réside encore sa famille. Il veut rentrer purger sa peine chez lui, près des siens. Et c'est ce ticket retour que vient lui apporter sur un plateau François Thiry dans son exil ibérique. François Thiry sait déjà qu'il est en bonne place pour prendre très prochainement la direction de l'office. Il a un plan pour en faire une des plus importantes agences de la lutte contre les stupes, et s'il peut retourner Ambly, il aura un atout décisif pour que sa hiérarchie lui mange dans la main. Alors il se précipite en Andalousie et rencontre Ambly en prison. Pour l'instant, le marché s'est décidé d'obtenir l'extradition d'Ambly contre des renseignements préliminaires. On ne va pas passer d'une peine de 18 ans de prison à la liberté d'un claquement de doigts, mais c'est un début. Entre le flic et le voyou, après quelques rounds d'observation méfiants, le courant passe. Ambly a besoin d'un coup de pouce, il sait que les stupes en général sont réglo. Et de son côté, François Thiry peut très vite vérifier la qualité des informations fournies. Certes, on reste pour l'instant à une échelle modeste, mais il a des noms, des détails, et dès qu'il prend les rênes de l'ORCTIS, cela lui offre sur un plateau deux ou trois jolis coups qui réveillent le service. Il y a un patron dans les murs, ça s'annonce plutôt bien. De son côté, le commissaire tient sa part du deal. Il appuie la demande d'extradition et va jusqu'à souffler à Ambly le nom d'une avocate pour suivre la procédure. Bizarrement, c'est une spécialiste en droit immobilier, mais elle a l'avantage pour Sofiane Ambly de ne pas être dans le milieu pénal, donc discrète. Et l'avantage pour François Thiry d'être très proche, puisqu'ils ont une liaison on-off depuis quelques années. Pour la deuxième fois, le commissaire s'assied largement sur l'éthique en taisant ce conflit d'intérêts, mais la qualité de l'indique justifie à ses yeux le mélange des genres. Car, nous l'avons dit, le commissaire a un plan. Un plan grandiose, un plan qu'il a pompeusement appelé Myrmidon, du nom de ces soldats grecs légendaires de la guerre de Troie dont la seule présence renversait le sort des armes pendant les batailles. Helléniste un jour, helléniste toujours. Il présente inlassablement sa grande idée à qui veut l'écouter au ministère de l'Intérieur, à la chancellerie, au parquet de Paris, à la juridiction interrégionale spécialisée ou même à la PJ. Il faut arrêter de se focaliser sur les saisies. Une tonne, deux tonnes, trois, quatre, cinq tonnes, ça ne change rien. La drogue passe, toujours plus de drogue. Ce qu'il faut, c'est éliminer les filières, et pour cela, il faut identifier les grossistes sur le territoire national et leur réseau pour extirper d'un coup le mal et ses racines. Myrmidon, c'est ça, une grosse livraison surveillée discrètement, et tous les grossistes qui viennent s'approvisionner au cul du camion sont ensuite filés pendant des jours jusqu'à ce que la topologie de leur petit réseau local soit connue. Ensuite, c'est le balai des perquisitions et des arrestations. Qu'importe si un peu de drogue se perd au passage, ce qui compte, ce sont les hommes. François Thierry innove, son plan est à rebours de ce qui s'est toujours fait jusque-là. À l'ORCTIS, aux douanes ou à la gendarmerie, les statistiques de réussite reposent sur les tonnages interceptés. Donc pourquoi pas? Mais l'on objecte vite dans les hautes sphères que pour cela il faut connaître avec précision les dates de départ des chargements du Maroc, malgré l'inertie légendaire des autorités marocaines à fournir ces renseignements. À quoi le commissaire répond mystérieusement qu'il a une solution. Cette solution dont il tait tout, c'est bien sûr Sofiane Ambly, qui est finalement extradée en janvier 2011 pour accomplir sa peine en France à portée de main de François Thierry. Le plan est en place, et il semble parfait sur le papier. Pourtant, il entraînera inéluctablement la chute de toutes les personnes qui y prendront de près ou de loin une quelconque part. Cette affaire ayant de vastes ramifications, je vais arrêter là cette narration et nous aborderons, après son ascension, dans l'acte 2, la chute du commissaire François Thierry.